On va ce soir ensemble commencer une nouvelle série de méditations. Et j'ai eu à cœur de vous parler des miracles de Jésus. Parce que j'ai réalisé qu'en ce qui concerne les miracles du Seigneur Jésus, il y a toute une partie d'un enseignement lié à ces miracles à côté desquels nous passons. Ce que j'ai envie de vous dire, les miracles ne sont pas seulement des miracles. Ils ne sont pas seulement là pour manifester la puissance de Jésus, même si bien évidemment, elle se manifeste au niveau des miracles. Mais les miracles de Jésus ont aussi une signification spirituelle. Le miracle n'est pas seulement une bénédiction. Mais le miracle, c'est aussi un message. Je ne sais pas si on verra tous les miracles de Jésus. Mais écoutez, laissons le Seigneur conduire les choses, mais ensemble, creuser la parole de Dieu, peut-être pour en retirer des enseignements que nous n'avons pas encore l'habitude de recevoir. Actes chapitre 2, verset 22. Actes chapitre 2, verset 22, dans la prédication de Pierre à la Pentecôte, il dira entre autres ceci: Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Pierre dira ceci: Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Dans toute la parole de Dieu, quelles que soient les dispensations, Dieu a toujours voulu témoigner de la vérité et donner son approbation aux vrais serviteurs. Et il y a dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, avec le plus bel exemple, bien évidemment, celui de Jésus, il y a tellement d'exemples que c'est difficile de les choisir. Néanmoins, je pourrais vous parler de Moïse. Il n'y a pas longtemps que je vous en ai parlé, d'ailleurs. Mais comment Dieu va manifester sa gloire au travers de cet homme qui a été choisi par lui? Je pourrais vous parler d'Élie ou d'Élisée, prophètes de Dieu qui ont manifesté des miracles démontrant que Dieu était avec eux. la même chose en ce qui concerne la personne de Jésus. Je voudrais que nous essayions de comprendre les Juifs de son époque. Vous êtes un Juif et un homme se présente devant vous en disant « Je suis le Messie qui a été annoncé et promis dans l'Ancien Testament ». Va commencer à le regarder en lui disant « Mais tu es un homme comme moi. » Et Jésus était parfaitement un homme comme lui. Tu dis que tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qui me le prouve ? Et au travers des miracles, les Juifs vont finir par dire « Personne ne peut faire ce que Jésus fait si Dieu n'est avec lui. » Donc, au travers des miracles, comme le dira Pierre, des prodiges et des signes, qu'il a manifesté au milieu de son peuple, il a démontré par cette puissance manifestée que Dieu était avec lui. Il va démontrer par cette puissance qu'il est bien l'envoyé de Dieu, qu'il est bien le Messie, qu'il est bien le Fils de Dieu. Et il va démontrer, même par sa personnalité et par son service, des œuvres, mais des œuvres que personne d'autre n'a jamais fait avant lui. Et les miracles, le miraculeux, ça fait partie du ministère de Jésus. Et vous connaissez comme moi ces paroles prophétiques que Jésus va reprendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai été oint dans un but bien précis. Et là, vous avez, vous comme moi, nous le savons, en quelques mots, une description du ministère du Seigneur Jésus. Mais souvenons-nous, pour comprendre, pour bien comprendre, que les miracles ont attesté que Dieu était avec Jésus et que Dieu était en Jésus. Il faut que nous comprenions bien la nature humaine de Jésus. Or, moi, ce que je remarque dans l'esprit des chrétiens, la nature divine de Jésus, ça, c'est très facile à comprendre. Mais de comprendre que Dieu se soit fait homme, ça, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Ça ne rentre pas dans notre logique. Or, la Bible nous montre quand il est venu, elle nous dit, il a paru comme un vrai homme. Jésus a épousé la nature humaine. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de ses attributs divins. Il est Dieu. Mais il s'est dépouillé de ses attributs divins, non seulement pour paraître comme un homme, mais vous savez ce que la Bible dit, comme un simple homme. Quelqu'un qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Ce n'est pas le Christ que vous allez trouver sur les peintures, avec un beau visage fin, etc. C'était le fils du charpentier qui a grandi avec le charpentier. Et le charpentier de l'époque, il n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Hein. Donc rien dans l'apparence extérieure de Jésus ne pouvait laisser entrevoir qu'il était autre chose qu'un homme. Il était parfaitement homme. Quand je pense à son précurseur, lui, il avait quelque chose pour attirer le regard. Vous savez qui est le précurseur de Jésus ? Jean-Baptiste. Alors lui, j'aurais bien voulu voir une photo, moi. Pas vous, vous n'êtes pas curieux de ces trucs-là, vous, hein ? Moi, je me dis, j'aurais bien aimé voir à quoi il ressemblait, quand même, parce que... Moi, je pense quand même qu'il devait un peu ressembler à un sauvage, quoi. Hein. Franchement, quand vous le voyez, Jean-Baptiste, c'était ça. Hein, c'était une espèce d'ermite là, qui vivait dans avec son grand manteau de poil de chameau, tout ça, qui mangeait des trucs, du miel, des sauterelles et tout. Là. Bon. Alors, c'est sûr que si vous aviez croisé Jean-Baptiste, moi, je pense que vous l'auriez remarqué et reconnu tout de suite. Mais Jésus... au milieu de la foule, c'est un illustre inconnu. Extérieurement, physiquement, il est comme vous et moi. Rien ne va le distinguer de quelqu'un d'autre. Il est parfaitement homme. Et je ne vais pas tordre la parole de Dieu si je vous dis... Il n'est ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, ni fort, ni faible, ni beau, ni moche. Rien ne pouvait attirer le regard. Il est né d'une femme. Un enfant nous est né. Et quand cet enfant est né, rien ne l'a distingué des autres enfants qui sont nés à la même époque que lui. Bien évidemment, il a eu une mère pour venir au monde. La seule différence, et nous le croyons, c'est que son père, c'est Dieu. Et il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, qui n'a pas été touchée par Joseph tout le temps que Jésus n'est pas venu au monde. Mais j'aimerais quand même vous dire, et je le dis par rapport à ce que dit l'Église catholique, il me semble que quand Jésus est né, elle n'est pas restée vierge. Hein. Parce que la doctrine de l'Immaculée Conception, l'éternelle virginité de Marie, ça c'est une invention des hommes. Hein. Parce que après, Jésus, il a eu des frères. Hein. Quand vous lisez la Bible, il n'y a que les aveugles qui ne sont pas capables de lire ce qui était écrit dedans. Hein. Donc, Marie, elle aussi, était une femme comme les autres, d'abord, quand le Seigneur va la choisir, si je résume un petit peu les propos de Marie, elle dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je suis une femme comme les autres, je ne suis pas digne, etc., etc. Donc, Marie elle-même, vous pouvez relire la prière de Marie, ce n'est pas mon étude ce soir, mais quand elle va prier, elle va invoquer le Sauveur. Ça veut dire qu'elle-même, elle reconnaît qu'elle a besoin d'être sauvée quand on invoque le Sauveur, excusez-moi. Donc, ce sont les hommes qui ont donné à Marie une place que la parole de Dieu ne lui donne pas, qu'elle ne s'est jamais donnée, que Jésus lui a jamais donnée, si ce n'est qu'elle a été choisie par Dieu en tant que femme pour amener le Fils de Dieu au monde, et il fallait bien que Jésus ait une mère. Je crois, je ne fais pas de jeu de mots avec les Marseillais, je vous promets, qu'elle a été une bonne mère. Pas la bonne mère là-haut, hein, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Si je vous dis bonne maman, vous avez pensé à la confiture. Après, on ne sait plus quoi dire. Hein, voilà. C'est plus, des fois, vous savez que je suis obligé de faire attention à ce que je dis, parce que je sais, si je vais dire des tôles, les oiseaux qui sont là, ils vont se mettre à rigoler après. Hein. Oui, vous, parfaitement, oui. Alors, si je dis ça et tout, il faut faire attention à tout ce qu'on raconte maintenant. C'est quand même terrible. Hein. Ben, je crois que Marie n'a pas été une meilleure mère ou une pire mère que les autres. Pour moi, Jésus a eu une enfance normale. Il était homme, frères et sœurs. Et quand vous lisez la parole de Dieu vous montre qu'il était homme. À un moment, ses parents l'ont perdu. Mettez-vous à la place des parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ah, il a dû encore nous faire un coup, etc. Il est parti où? Allez, là, là. Bon, nous, vous et moi, on a la parole de Dieu, on sait bien ce qui s'est passé, mais mettez-vous à la place de l'époque. Il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas appeler, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas ceci, cela. Hein. Les enfants trouvaient tout ce que vous voulez. Hein. Jésus avait une nature humaine. D'abord, il est appelé le Fils de l'homme. Et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, vous allez retrouver cette expression qui caractérise le Seigneur Jésus. Mais cet homme, il était rempli de Dieu. Il était, et ça va certainement vous rappeler quelque chose, il était un tabernacle vivant. Il était rempli de la présence de Dieu. Et il est l'image de ce qui va se passer une fois que Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Le corps de l'homme va devenir le temple du Dieu vivant. Non plus un temple fait avec des pierres, mais un temple fait avec des pierres vivantes, c'est-à-dire nous. Et Paul va dire ceci, Dieu était en Christ. Donc Jésus, c'est vraiment la manifestation du tabernacle. C'est Dieu qui est venu en chair, habiter parmi les hommes. Et là, vous retrouvez la logique biblique. Parce que Dieu qui veut habiter parmi les hommes, vous le retrouvez depuis le début, depuis la Genèse avec Adam et Ève. Vous venez les voir tous les jours. Vous le retrouvez, on l'a médité ensemble quand on a étudié le tabernacle, etc. Et Dieu ne change pas. Il ne se change pas. Donc, même dans la personne de Jésus, vous avez cette image qui vous montre toute la logique biblique, y compris dans la personne de Jésus. Dieu était en Christ. Et c'est pourquoi Paul pourra dire après, si quelqu'un est en Christ, ben il est une nouvelle création. Et il pourra dire, mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous étudiez les textes prophétiques qui sont liés à la personne de Jésus, on connaît ces choses-là par cœur, mais dans le contexte, c'est bon de se les rappeler. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et Jésus en chair, c'est Dieu avec nous. Dieu au milieu des hommes. Dieu qui habite au milieu des siens. C'est la personne divine manifestée en chair. Ensuite, nous allons sur cet homme. D'accord ? Nous allons sur cet homme, comme vous et comme moi, voir l'approbation divine. Quand Jésus se fait baptiser, je vous promets, j'aurais pas aimé me faire baptiser là où Jésus s'est fait baptiser. J'y suis allé. L'eau, mes amis, elle est verte, elle est boueuse. Elle est sale, vous verriez un petit peu, c'est une rivière qui... Ah, vous ne voyez pas vos doigts de pied, hein, je vous assure, il n'y a pas ça, charrie tout un tas de limon, de tout ce que vous voulez. On sait où Jésus s'est fait baptiser par Jean. Les gens s'imaginent que le Jourdain, c'est la Seine, j'ai envie de vous dire, pas du tout. La Rille, c'est bien plus grand que le Jourdain. Vous entendez ? Ouais, la Rille, c'est bien plus grand que le Jourdain. Le Jourdain, c'est une petite rivière. Et quand Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » À cet endroit, bien d'autres personnes ont été baptisées. Parce que si vous lisez le ministère de Jean le baptiseur, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, si on l'appelait Jean le baptiseur, c'est qui baptisait. Et il a baptisé des foules. Pour nous aujourd'hui, vous savez bien ce qu'on vit. Quelle leçon! Parce que le message de Jean, pour attirer les foules, il insultait les gens. Race de vipères! Je vais vous dire, quand vous dites ça à des juifs, que nous, ça veut dire quoi, race de vipères? Remettez-vous dans le contexte des juifs de l'époque, des animaux impurs, etc. Et Jean regarde des juifs en leur disant, vous êtes de la race impure. C'est ça que ça veut dire, hein? C'est pas si surprenant que ça qu'on y ait coupé la tête. Mais en fin de compte, est-ce que les juifs portaient l'impureté dans leur cœur? Bien évidemment. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ils prêchaient la repentance. Et moi, je bénis Dieu pour ces images de la parole de Dieu. Parce que ce message à la brosse métallique. Ben, il portait du fruit. Les gens venaient. Les gens se repentaient. Il y avait même des Romains. Vous vous rendez compte? Il y avait même des soldats romains qui venaient. Comme quoi? Vous savez, quand les gens cherchent la vérité, c'est la vérité qu'il faut leur prêcher. Amen. Mais je ne connais qu'une seule personne qui, lorsqu'elle a été baptisée par Jean, a vu le ciel s'ouvrir et sur lequel on a entendu celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là, c'est mon fils. Celui-là, c'est mon bien-aimé. Celui-là, il a tout mon amour. Celui-là, il a toute mon affection. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais été bénéficiaire d'une telle manifestation divine. Et c'est le Seigneur. Et alors qu'il n'avait pas encore été rempli du Saint-Esprit, eh bien Dieu va témoigner eh bien que Jésus est le Fils de Dieu. Eh oui, et à partir de ce moment-là, vous le savez, le ministère du Seigneur Jésus va commencer. La même chose va se répéter, vous savez où ? J'aime bien vous poser des questions comme ça. Vous savez que par deux fois Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Hein ? Ben oui, j'entends par là, souvent, la transfiguration. La seconde fois. Et la transfiguration, quel message ? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance réunies, un tout, béni soit Dieu. Alors, ça, ce sont des manifestations toutes particulières, mais l'approbation de Dieu, je vous rappelle ce que Pierre nous a laissé par le Saint-Esprit, c'est pas seulement Dieu qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Parce que ceux qui ont assisté au baptême de Jésus ont entendu cette voix. Mais je ne sais pas combien ils étaient. Malgré tout, j'ai quand même envie de vous dire que par rapport au peuple d'Israël, ils étaient peu nombreux. Si je vous parle de la transfiguration, vous doutez bien qu'ils étaient encore moins. Et Pierre va nous dire que ce n'est pas seulement par ces manifestations divines que Jésus va montrer qu'il n'est pas seulement le Fils de l'homme, c'est-à-dire un homme comme vous et moi, mais qu'il va montrer aussi qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu était en lui. Mais c'est au travers des miracles. Au travers des miracles qu'il va accomplir, Dieu a rendu témoignage devant vous. Parce que cet homme, ce Jésus de Nazareth, devant vous, il a accompli des miracles. Or, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc, quand vous et moi, nous allons méditer le sens spirituel des miracles, nous allons méditer un sens particulier au travers d'un, un sens différent avec un autre, mais la volonté de Dieu au travers des miracles, c'était de mettre sur la personne de son Fils son approbation pour montrer, pour démontrer, pour prouver qu'il était bien le Fils de Dieu. C'est ça le sens du miracle. C'est pas pour montrer sa puissance, c'était pour montrer qu'il était le Fils de Dieu. Dieu n'a jamais établi des imposteurs. On est bien d'accord. Et il y a donc une déclaration dans ce texte que nous avons lu, dans le livre des Actes. Parce qu'en fait, les miracles de Jésus, on ne peut pas les compter. Et vous savez comment se termine l'évangile selon Jean ? En disant, mais s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a fait. Mais la terre entière ne pourrait contenir tous ces écrits. Alors, les miracles de Jésus, parfois, ça va concerner une personne. Et parfois, ça va concerner une foule de gens. Je vous donne un exemple tout simple, le paralytique. Voilà, ça concerne une personne. Mais quand vous avez ces textes un petit peu génériques qui disent « On lui amena des gens atteints de toutes sortes de maladies et il les guérit. » Combien il y en avait ? Vous regardez le texte, le contexte, il était entouré d'une foule. Et frères et sœurs, là encore, parce que on explique les évangiles par les évangiles, hein. La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. C'est par la lumière qu'on voit la lumière, hein. Moi, je vois pas Jésus étendre sa main comme ça. Ça y est, vous êtes tous guéris. Hop. Amen. On va au restaurant, les gars. Il y avait une foule. Il les a tous guéris un par un. Ils sont tous venus à lui. Et il a pris du temps. Et il s'est occupé d'eux. Et moi, je dis, frères et sœurs, c'est une petite parenthèse que je fais, mais quand les gens sont là, il faut qu'on prenne du temps. Et il faut qu'on s'occupe d'eux. J'ai eu un entretien cette semaine avec une dame. Elle me fait penser à un de nos cantiques d'évangélisation. Un chrétien, je croyais être. Mais la réalité, c'est que j'ignorais le bonheur que Jésus peut donner. Quand j'ai écouté cette femme, elle a été élevée dans une religion. Elle a fait les choses pensant bien les faire. Mais en fait, cette femme n'a été pas convertie. Parfois, quand on l'entend, elle va vous parler de prière, elle va vous parler de volonté de Dieu. Mais en fin de compte, quand vous creusez, cette femme-là, le Seigneur, elle ne l'a jamais connue comme son sauveur. Donc ça, ça explique tout. Il faut prendre du temps pour ces gens-là. Il faut prendre du temps pour les amener à un véritable enseignement biblique qu'ils n'ont jamais reçu. Alors je lui ai dit, écoutez, la première chose qu'il faut faire pour le moment, vous avez besoin d'une guérison intérieure. On va commencer par ça. On va laisser le reste de côté, puis quand vous serez en état, je vous dirai autre chose. J'ai dit aujourd'hui, vous n'êtes pas en état d'entendre ce que je voudrais vraiment vous dire. J'ai dit, vous êtes comme quelqu'un qu'on amène aux urgences. Vous avez besoin de soins d'urgence. Le reste, ça viendra, mais ça viendra plus tard. Et Jésus prenait du temps avec les gens. Les gens après sont surpris. Oh, monsieur le pasteur, j'ai pris votre temps. Et je dis, vous croyez que ça sert à quoi le temps d'un pasteur? Et vous croyez que ça sert à quoi? Voilà, ces âmes ont besoin. Et Jésus prenait du temps. Alors, mes chers frères et sœurs, le miraculeux, c'est aussi ça. C'est pas seulement manifester de la puissance. C'est aimer les âmes et prendre du temps pour leur donner l'occasion de voir la puissance de Dieu se manifester dans leurs besoins personnels. Et c'est ce que Jésus faisait. Combien de fois le Seigneur Jésus va-t-il être confronté à des gens possédés ? Moi, souvent, j'en parle avec mes filles quand elles me parlent de certaines situations qu'elles rencontrent à l'école. Ils écoutent parler, puis vous savez, je suis avec vous, et je suis d'abord comme ça à la maison. Je leur dis, vous savez, il ne faut pas chercher plus loin, ce gamin-là, cette gamine-là, elle est possédée. Oui, vous avez des situations qui sont liées à un manque d'éducation, gna gna gna, tout ce que vous voulez. Je peux vous dire que dans ce monde, des gamins possédés, il y en a. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une délivrance. Quand vous voyez des gamins tout petits qui sont violents, qui manifestent des paroles de mort, etc., etc., c'est pas digne de l'enfance, ça. Non, non. Alors, les manifestations démoniaques vont être différentes. Il va délivrer le gadarénien qui se meurtrissait avec des pierres, est obligé de l'enchaîner, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais Jésus va aussi délivrer cet enfant qui tantôt se jetait dans l'eau, tantôt se jetait dans le feu. Vous savez, le diable pour faire du mal, les démons ne font que ça. Ils détruisent, ils font du mal. Alors c'est sûr que nous, quand on est témoin de ces choses, ça fait de la peine. Alors, moi je vais vous donner un truc. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est tout ce que ça vous fait. Mais vous doutez un peu ce que je vais dire après, vous avez peur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand vous êtes en compagnie d'un de ces possédés, puisque vous n'allez pas pouvoir le faire à haute voix, moi, vous savez, je sais parler à Dieu sans ouvrir la bouche. Et vous ? Je vais vous dire, je sais aussi parler au diable sans ouvrir la bouche. Chasser le démon au nom de Jésus sans ouvrir la bouche. Moi, je suis capable de dire au nom de Jésus, sors de ce gosse sans ouvrir la bouche. Et toute l'Église vient de dire à son pasteur un grand amen. On ne craint pas le diable. Celui qui vit en nous est plus fort que lui. Alors nous ne sommes pas là à jouer les supra-saints, les super et tout ce que vous voulez. Autrement, comptez sur moi, je vais rapidement vous guérir. Mais si le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit, ce n'est pas non plus pour rien. Ce n'est pas pour qu'on regarde les possédés sans rien faire. Oh, vous me regardez bizarrement là. Oui, mais il y a une autorité chez le chrétien, chez la chrétienne. Voilà, moi je croyais qu'il n'y avait que le pasteur qui pouvait chasser les démons. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, je vais vous lire, le démon, il ne résiste pas, Ce n'est pas pour rien qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour être protégé quand on est en leur présence. C'est aussi pour qu'ils décampent. Et quand ils étaient en présence de Jésus, ils faisaient quoi ? Ils vichaient le camp. Mais ce Jésus, il vit où aujourd'hui ? Il vit en nous et par le Saint-Esprit. C'est à des pentecôtistes que je m'adresse, mais je le fais volontairement. Trouvez-moi un exemple dans la Bible de démon qui a été chassé en parlant en langue. Je vous paye le champagne. Il n'y en a pas. Ça, c'est de la maladie pentecôtiste. Je bénis Dieu, et vous le savez, je bénis Dieu pour le parler en langue. Béni soit Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas donner à la manifestation des langues un pouvoir que la parole de Dieu ne lui donne pas. On ne chasse pas les démons en parlant en langue. Ah, il faut laisser ça aux tordus de l'extérieur, là. On a assez qui nous ont cassé les pieds avec ça, hein. Mais c'est par l'autorité spirituelle qu'il y a dans le nom de Jésus qu'on chasse les démons. Au nom de Jésus, sors. Vous savez ce qu'il va faire? Il va sortir. T'es qui, toi? Oh, moi, je suis rien. Mais celui qui vit en moi, lui, lui, c'est quelqu'un. Hein? Ah oui, lui, c'est quelqu'un. Vous savez, frères et sœurs, moi je trouve que les démons existent encore, mais c'est quand même bizarre, au milieu de nous, ils se manifestent beaucoup moins qu'autrefois. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont disparu? Moi, je crois pas. Moi, je ne crois pas. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce, hein, qu'il nous remplisse du Saint-Esprit, pour que les possédés soient délivrés. C'est la mission de l'Église. Vous entendez ce que je dis? La mission de l'Église, moi j'ai connu, j'ai vu les gens ouvrir la porte et s'écrouler à la porte d'entrée de l'Église. Parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était là, ils étaient possédés, ils ne tenaient pas. Ils arrivaient et varda, hop. Ah, les gens, là. Vous savez, le grand-père qui était là, laissez les dons, c'est bon, ça y est, hop, c'est fait, ils sont délivrés. Ben, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, le Seigneur s'en est occupé tout seul. Ah, frère, vous croyez? Moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, les chrétiens aient peur. Ah, non, on ne va pas s'y frotter, parce qu'en fin de compte, on est... Il n'est pas question d'aller se frotter aux démons, je ne vais pas aller les chercher. Hein. Quand je vais à la pêche, moi, c'est pour pêcher des poissons, pas les démons, hein. On est d'accord. Mais quand ils sont là, bah, le miraculeux se manifeste et s'est possédé que les Juifs n'avaient pas pu délivrer. Ben Jésus, lui, il est délivré. Regardez les miracles de Jésus. Ça va toucher tellement de personnes différentes. Des hommes, des femmes, des enfants, des juifs, des romains. Moi, j'aurais voulu voir la réaction des juifs. Quand Jésus s'adresse là au centenier romain. Hein? Eh oui, c'est quelque chose. Vous aviez des gens qui étaient malades depuis pas longtemps. Par exemple, la belle-mère de Pierre. Vous aviez des gens qui étaient malades depuis très longtemps. Par exemple, la femme atteinte d'une perte de sang, la Bible nous dit, ça fait 12 ans que ça dure. Jésus va les guérir aussi bien l'une que l'autre. Puis alors, que dire de l'aveugle de naissance? Alors là, hein? Les miracles de Jésus ont été accomplis publiquement. Pourquoi? Parce que les miracles ont été faits pour attester que Dieu était avec lui, pour montrer que Dieu approuvait son Fils. Donc ces miracles ont été faits sur la place publique, non seulement bien sûr comme un témoignage de sa puissance. Et alors, les foules le suivaient. il y avait une foule de témoins qui témoignaient. Parce qu'un témoin, c'est fait pour témoigner. Même les ennemis de Jésus étaient les témoins de Jésus. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte que tout en étant contre lui, ils parlaient de lui. Et les gens, ils entendaient. Ils disaient, bon, que les ultra-religieux parlent contre cet homme, mais moi qui suis malade, peut-être que si je vais le voir, il va pouvoir me guérir. Tant pis ce que racontent les juifs. Moi, j'y vais. Donc, même les ennemis de Jésus faisaient son travail. Ben ouais. Alors, mes chers frères et sœurs, quand vous regardez Moïse, les prophètes, ils vont manifester la puissance au travers de miracles faits au nom du Dieu d'Israël, mais avec une puissance qui n'était pas permanente, mais qui était ponctuelle et qui ne se manifestait que lorsqu'il y avait des besoins. Donc la puissance, elle était en Dieu et elle se manifestait à travers eux de temps en temps. Mais en ce qui concerne Jésus, la puissance, elle était en lui. Elle habitait en lui. Dieu était en Christ. Dieu était en lui d'une façon permanente. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et c'est par Jésus et par la puissance du nom qui lui a été donné, pas par hasard, on est bien d'accord ? Loin de là, mais c'est par la puissance de ce nom que les miracles ont été réalisés. Je termine. La résurrection de Lazare. La puissance dans les paroles prononcées par Jésus, le miraculeux de Jésus qui se manifeste par sa parole. Lazare, sort. Il donne un ordre. Et le mort revient à la vie. Il est avec les disciples en pleine tempête, vous connaissez comme moi le récit. Il va dire au vent, tais-toi. Pas une prédication d'une heure, hein. Tais-toi. Et le vent et la mer se taisent, se calment. Jésus a pu dire, vous trouvez ça, vous connaissez ces textes dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Alors, tous les miracles de Jésus étaient en phase avec la nouvelle dispensation de la grâce qui allait se manifester. La fin de la loi, il a guéri, mais il n'a jamais rendu quelqu'un malade. Alors que si vous lisez la loi, et c'est là que vous réalisez dans le ministère de Jésus qu'on est en train de passer dans la grâce. Il a béni, mais je parle de personne, à part le figuier, ce n'est pas une personne, il n'a jamais maudit. Il a fait du bien, c'est-à-dire il a béni. Il allait de lieu en lieu, bénissant, faisant du bien. Voilà ce qui caractérise la personne de Jésus. Il n'est pas venu pour détruire, il est venu pour sauver. Et les miracles de Jésus sont liés à des bénédictions spirituelles. Vous prenez l'exemple du paralytique, il ne l'a pas seulement guéri, mais il a aussi pardonné ses péchés. Le miraculeux est toujours associé au spirituel. Et faut vraiment, frères et sœurs, et si par l'Esprit de Dieu je peux arriver à vous apprendre à méditer la parole de Dieu comme cela, replongez-vous dans le contexte. Vous êtes au milieu des Juifs qui ne connaissent que la loi. Comment un Juif qui ne vit que par la loi peut-il voir ses péchés pardonnés ? Il est obligé de retourner dans le Lévitique. Et là, il va falloir qu'il offre des sacrifices, qu'il aille au temple, etc. Les Juifs sont là autour de Jésus. Et ils entendent Jésus dire à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Écoutez leur réaction. Mais qui est cet homme ? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner les péchés. C'est Dieu. Donc, si vous faites une relation de transitivité, ça veut dire, s'il pardonne les péchés, ça veut dire qu'il est Dieu. Et c'est là où les choses ont commencé à se gâter. Parce que tant qu'il faisait des miracles, des bénédictions et tout ça, là, ça se passait bien. Mais quand ils ont commencé à comprendre que Dieu était non seulement avec lui, mais que Dieu était en lui, quand ils ont commencé à comprendre qu'il n'était pas seulement le Fils de l'homme, mais qu'il était réellement le Fils de Dieu, ça voulait dire que toute leur religion, tout ce à quoi ils étaient attachés, tout ça s'était fichu par terre. Et ils ont voulu se débarrasser de lui plutôt que croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Écoutez-moi. Aujourd'hui, vous et moi, si nous pouvons être pardonnés de nos péchés, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Vous êtes d'accord avec moi ? Or, quand Jésus va pardonner les péchés du paralytique, ce n'était pas Jésus ressuscité. Il n'était pas encore mort sur la croix qu'il pardonnait déjà les péchés. Et il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc ça démontrait que Jésus était Dieu et qu'il était le Fils de Dieu, le Messie promis. Alors moi je crois qu'on va méditer des choses intéressantes au travers des miracles. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous bénisse dans cette série de méditations. Merci pour votre patience. On termine ensemble par la prière.